Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Priscilla Telmont a étudié l'ethnomédecine avant de vouer sa vie au voyage. Membre de la Société des explorateurs français, elle est écrivain, voyageur et réalisatrice. En 1997, elle traverse clandestinement le Dolpo en compagnie de Sylvain Tesson et d'Alexandre Poussin. En 1998, elle fait l'ascension du Kilimandjaro et traverse à pied et à cheval le massif de l'Atlas. Depuis 1999, elle se consacre plus particulièrement à des expéditions de redécouverte qui mêlent l'histoire et l'aventure dans l'esprit des explorateurs d'antan. Ces voyages rendent hommage à la beauté et au mystère des contrées explorées. C'est à Paris que j'ai rencontré Priscilla qui revient sur les dernières années de sa vie et qui nous parle du voyage. Ça va, tu t'en sors dans la gestion de ta journée ?
Oui, ça va.
Alors c'est quoi le programme aujourd'hui ?
Le programme aujourd'hui, comme les programmes parisiens quand je suis à Paris, c'était les prochains projets à mettre en place avec les producteurs, mes maisons d'édition, les magazines avec qui je travaille. Donc voilà, c'est des petits tourbillons de rendez-vous, comme toujours, entre deux voyages, entre deux départs. Et sinon, je rentre de Tanzanie et je repars normalement au Bhoutan, voilà, d'ici 15 jours. Vraiment, moi j'ai toujours été passionnée des autres, du monde, de cette terre sublime qui nous porte et de tenter en tout cas de raconter ce monde. Donc j'ai la chance de pouvoir voyager et vivre de mes voyages. Donc je ne voyage pas que pour des projets à chaque fois, mais c'est vrai que ça motive beaucoup mes déplacements à travers la polyvalence que j'aime avoir dans ce métier, c'est-à-dire de faire des films ou des reportages ou d'écrire des bouquins ou de faire des conférences, de ne pas rester dans un seul domaine. C'est vraiment de pouvoir être le plus polyvalent possible. Donc j'ai pas une je ne pars pas à chaque fois pour un projet, mais beaucoup de mes aventures et de mes voyages découlent forcément naturellement parce que c'est un métier passion, donc c'est pas du tout pour moi, je le vois pas comme un travail. Découle des reportages ou des films de ces aventures.
Et comment tu es rentrée dans ce métier passion, dans le voyage ? Quelle a été ta démarche au début, quand tu as commencé à prendre la route ?
Ça a été une évidence, assez quand j'étais enfant, en fait, depuis toujours, j'ai été attirée par les grands horizons. Et c'était un peu étrange pour moi que d'être née à Paris. Donc je me demandais vraiment quel drôle de hasard avait fait que mes parents soient restés ici et que je sois née ici. Donc très tôt, ça a été l'échappatoire par les livres et les ouvrages de littérature de voyage qui étaient vraiment mes compagnons de chaque instant quand j'étais adolescente et enfant. Et j'ai commencé vraiment à beaucoup lire, beaucoup de littérature de voyage. Et c'était une façon de pouvoir supporter la vie parisienne pour moi, le conditionnement de l'école qui n'était pas du tout fait pour moi. Et très vite, mes parents m'ont permis de voyager très tôt, de m'envoyer au Canada quand j'avais 11 ans, de partir un peu à droite à gauche dans des camps, au fin fond des cabanes, à construire des cabanes. Et à 18 ans, avec mon passeport en poche, j'ai commencé à voyager. J'étais très partagée entre l'ethnologie, les missions humanitaires ou le grand reportage. En tout cas, je savais que c'était une grande envie que de voyager depuis toujours. Et puis, je me suis constituée un peu un métier sur mesure, en fait, parce que j'ai commencé à faire des reportages tout en étant directrice pour des missions humanitaires, sur des missions particulières au Kenya, en Tanzanie, aux Philippines, dans différents endroits pour différentes ONG. Et en même temps, je faisais des reportages. Et puis, avec Sylvain Tesson, qui est un écrivain voyageur qui est aimé de beaucoup de lecteurs aujourd'hui. On a eu très envie de faire ce voyage à travers l'Asie centrale en 1999. J'avais 21 ans et on avait tous les deux lu beaucoup Rubruck, Ella Maillard, enfin tous les écrivains qui ont marqué l'histoire de cette région. Et elle était peu connue encore avant 2001. C'est vrai que quand on parlait du Kyrgyzstan ou du Tadjikistan, les gens connaissaient très très mal ces régions. Et on voulait faire une sorte de grand voyage à travers les grandes steppes jusqu'à la mer d'Aral avec trois chevaux et vivre au plus proche des peuples cavaliers. Donc on est parti faire cette aventure. Sylvain avait déjà fait quelques voyages auparavant. Et ça a été vraiment un tournant pour tous les deux. On a commencé vraiment à se faire un métier sur mesure en écrivant des livres, en faisant des films, en faisant des conférences, des reportages, de ces grands voyages quand on partait 6, 7, 8 mois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à véritablement faire mon métier, que j'ai appris sur le terrain. J'ai fait des études d'ethnomédecine par correspondance parce que j'avais pas du tout envie de me retrouver sur les bancs de la fac et que pour moi, l'école de la vie, c'était la plus belle des écoles. Donc je suis très vite partie. Mes parents n'étaient pas forcément pour, mais ils m'ont laissé vivre ma vie. J'ai passé un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État, qui est vraiment en marche. C'est un médecin qui a créé cette chaire d'ethnomédecine à Paris, dans une école libre d'ethnomédecine. J'ai fait un mémoire sur l'accouchement dans l'eau. Donc c'était rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais c'était des choses qui me passionnaient, qui m'intéressaient vraiment sur les tradis praticiens à travers la planète. Et depuis, je continue ma route, à tracer mon chemin à travers les quatre coins de la Terre.
Avec chaque année, un nouveau voyage, un nouveau projet, souvent autour de la vidéo ou de la photo.
Chaque année, oui. Alors, en fait, les expéditions, c'est plutôt tous les 4 ans, parce que les grandes expéditions sur 8-9 mois, c'est à peu près tous les 4 ans, parce que le temps de faire les bouquins, de faire des expos, ça prend du temps. Et entre-temps, pendant ces années-là, moi, je suis partie beaucoup, je pars beaucoup en reportage. Donc, le temps de faire les livres, les films, tout en repartant de manière plus courte sur un mois ou deux mois pour faire mes reportages, je suis pas beaucoup là, donc ce qui laisse peu de temps pour pouvoir bien faire les ouvrages, mon dernier livre sur Alexandra Davinel, ça fait 4 ans que je dois le sortir normalement. Donc mon éditeur a été très patient. Et j'en ai un autre qui sort à la rentrée chez Robert Laffont. Mais je n'ai pas le temps de les faire. Donc du coup, je me disperse un peu. Une fois que les choses sont faites, bon, bah, je suis contente et je passe à autre chose. Mais c'est vrai que ça prend du temps de faire des livres. D'être content de ce qu'on va laisser, de pouvoir offrir aux gens quelque chose dont on est fier. Donc je suis assez exigeante pour ça et j'ai du mal à faire les choses un peu légèrement, quoi. Je suis plutôt trop perfectionniste, en tout cas dans ce que je fais à travers mes films et mes reportages. Donc du coup, c'est vrai que les grands voyages, c'est plutôt tous les 3-4 ans, même 5 ans. Et puis sinon, bah, je pars tout le temps en reportage pour 15 jours, 3 semaines ou pour mes documentaires pendant 1 mois, 2 mois. Voilà.
Et quand tu pars seule ou tu as réussi à monter ton équipe aujourd'hui pour t'accompagner sur le terrain? Parce qu'un reportage avec une caméra, c'est pas évident. Il y a de la logistique, il y a du matériel à gérer.
Alors ça dépend en fait où je pars seule quand c'est des reportages photos, écrits, parce que je suis autonome pour ça. Et quand je fais des documentaires pour la télévision, principalement pour Canal+, avec qui je travaille, là c'est avec une équipe, mais on part toujours en petite équipe. Moi j'aime bien la discrétion, d'essayer de moins possible déranger les gens quand on arrive. Et c'est vrai que quand on a le choix de pouvoir partir en petite équipe, c'est toujours mieux.
Et la rencontre est plus facile quand on voyage seul que quand on voyage en groupe, j'imagine?
Moi, j'ai jamais voyagé vraiment en groupe. Je ne sais pas vraiment ce que c'est que le voyage en groupe à 10 ou, enfin, ou 5 ou 6. J'ai jamais voyagé comme ça. Mais à 3 ou 4, c'est très différent forcément que quand on voyage seul. Et puis, pour un documentaire, on est vraiment là pour le travail, pour des interviews. On a déjà des rendez-vous. C'est quelque chose, c'est un programme, quoi. C'est pas du tout l'idée du voyage où chaque chose, chaque jour est une nouvelle... Une nouvelle journée, totalement dans l'inconnu. Quand je pars sur mes expéditions pendant 7 mois, je ne sais pas où je vais dormir le soir, je ne sais pas où vont me conduire mes pas. Je sais juste que j'ai un point à peu près sur une carte d'arrivée au bout de 7 mois. Et encore, je ne suis pas certaine d'aller jusqu'au bout de ce voyage-là que je m'étais donné au départ. Donc c'est très différent. Selon les voyages, la perspective est vraiment toute autre. Mais quand on voyage seul, c'est vrai qu'on a une approche du monde, une clairvoyance aux autres, qui est très différente que quand on est en petit groupe où on reconstitue une petite cellule, où on parle sa langue. Donc on est moins à même de parler avec les autres, moins curieux d'apprendre le vocabulaire, moins curieux d'apprendre la langue très vite, où on est, quand on est seul, on est une éponge, quoi. Et c'est vrai que c'est très différent. Mais chaque approche a sa raison d'être et ses rencontres sont différentes, mais toujours aussi joyeuses.
Tu pars essentiellement en Asie, parce que tu me parlais du Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Tibet, enfin essentiellement Asie.
L'Asie, je pense qu'on a des régions du monde où on sent que son âme est plus à sa place et reconnaît sa maison. C'est vrai que la Haute-Asie, en tout cas l'Himalaya, c'est une région où je me sens vraiment chez moi. Maintenant, j'ai pas vraiment de pays... De prédilection véritablement, c'est je vais là où j'ai la possibilité de travailler, de faire des reportages qui me passionnent. Donc là je rentre de Tanzanie où je suis allée tourner le making of d'une amie photographe qui fait tout un travail sur les tribus du monde et sur les mains et sur les savoir-faire. Donc on a fait tout un voyage à travers la Tanzanie pendant 1 mois, on était toutes les deux, donc c'est vrai que c'était fabuleux. Plutôt l'Asie, mais bon, je vais partir 3 mois au Canada. Enfin, j'ai pas de spécialement de région, où je vais tout le temps spécialement. Je vais beaucoup en Himalaya certainement parce que j'ai beaucoup à faire, mais dès que je peux m'échapper et aller en Afrique, j'ai pas de région que je n'aime pas et où je vais absolument pas parce que j'aime pas spécialement ce pays. Pas du tout. J'aime autant l'Orient, l'Asie, l'Afrique.
Est-ce que tu aimes le retour? Pourquoi le retour finalement? Pourquoi revenir à chaque fois sur Paris et pas rester plus longtemps sur place dans un pays qui t'est cher ou une région que tu visites ou une famille dans laquelle tu te sens bien?
Ah bah ça arrive, hein. Je le fais quand je suis en voyage. Ça m'arrive de rester beaucoup plus longtemps, d'avoir des rencontres qui sont tellement des moments de grâce que. On ne peut pas faire autrement que de rester, parce que c'est un tel cadeau. On est juste reconnaissant d'être là et de partager ce moment. Après, revenir, c'est toujours dans cette idée de partage aussi. Il y a des gens qui restent et qui sont contents de pouvoir voyager à travers des gens qui ont la chance de voyager comme nous. Donc c'est une manière de rentrer. C'est vrai qu'à Paris, j'ai mes éditeurs, mes producteurs qui sont là. C'est beaucoup plus simple. C'est un peu mon port d'attache pour le travail, mais je ne suis pas spécialement attachée à Paris. C'est-à-dire que si dans quelques années je dois rester vivre à Dharamsala ou en Inde, j'ai aucun problème avec cette idée-là. C'est-à-dire que pour le moment je reviens à Paris parce que c'est pour le travail, c'est plus simple comme ça. Mais si je dois rester, en plus c'est ce qui arrivera très certainement. Voilà, le jour où j'aurai une famille ou des enfants, je n'ai pas du tout envie de les élever à Paris.
Qu'est-ce que c'est pour toi le voyage? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parle-moi du voyage. Qu'est-ce que c'est, voyager?
Le voyage, c'est la métamorphose. Le voyage, c'est vraiment la métamorphose. C'est le réenchantement pour moi. C'est cette capacité de pouvoir véritablement rééquilibrer cette capacité de voir le monde par rapport à la société qui est tellement rapide, bondissante. Émergente, consumériste, où on va tellement vite, quoi. On sait plus s'arrêter. Donc, c'est vrai que quand on prend le temps en voyage de pouvoir être dans la rencontre, dans l'observation, dans ces sens qui sont éveillés à chaque instant, on se sent pleinement bien et vivant. Donc, pour moi, le voyage, c'est vraiment la métamorphose, la rencontre. Et le sentiment d'être pleinement humain à ce moment-là.
Et ta démarche à toi dans le voyage, hein, c'est quoi? C'est aller vite, aller doucement, en voiture, en train, en bus? Quel mode de déplacement tu privilégies dans tes voyages?
Moi, c'est les voyages en lenteur, principalement. Tout ce que je peux, enfin, ce que je préfère quand j'ai le choix, parce qu'évidemment, parfois, je fais partie d'une équipe, petite équipe, où je suis contrainte par le temps qui nous est donné. Mais sinon, quand moi j'organise mes voyages ou mes expéditions, c'est toujours des voyages en lenteur avec les moyens de transport locaux. Enfin, quand je dis ça, c'est vraiment par Fairmins, quoi. Les moyens vraiment de notre énergie principale. Quand on est dans des pays cavaliers, c'est d'utiliser le cheval. Quand on est dans un pays de marcheurs, c'est d'utiliser ses jambes. Donc je privilégie vraiment les voyages en lenteur, qui étaient des voyages chers à beaucoup de voyageurs, à La Carrière entre autres, qui a écrit des textes magnifiques sur le voyage en lenteur. Et cette capacité, voilà, de pouvoir tout d'un coup être ami des saisons, de surprendre les gens dans leur vie quotidienne, de observer les insectes qu'on verrait pas si on allait si vite, de sentir ce sentiment très panthéiste du monde, de ces moments de grâce. D'une rencontre avec un arbre, le rayon du soleil, un oiseau qui chante. C'est vrai que ces voyages-là permettent ça. Après, voilà, quand il faut prendre des voitures ou des trains, je le fais parce que je sais que c'est pour aller d'un endroit à l'autre, mais je préfère vraiment les moyens de locomotion naturels qui sont les nôtres, d'aller à vélo ou à pied parce que on ne rencontre pas du tout les mêmes personnes, on ne vit pas le voyage de la même façon. Montaigne avait cette très jolie phrase qui disait qu'il faut maintenir son âme en haleine. Et je pense que quand on voyage lentement, on la maintient vraiment.
Est-ce qu'on rencontre beaucoup de monde aujourd'hui sur les routes?
Sur les routes, de rencontrer beaucoup de monde.
Beaucoup de voyageurs. Est-ce qu'on rencontre beaucoup de voyageurs avec une démarche, un projet, qui sont là, qui savent pourquoi ils sont là?
Il y a une démocratisation du voyage depuis le siècle passé qui est incroyable.
Mais voyage et tourisme aussi, il ne faut peut-être pas confondre les deux, non? Parce qu'on peut partir en temps, on peut faire un voyage, on peut partir prendre des vacances, ce n'est pas la même démarche.
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que ça dépend où tu te trouves. Moi, j'ai rencontré des voyageurs dans des endroits vraiment paumés où parfois tu rencontres vraiment personne, quoi. Ça dépend vraiment où tu te trouves, ce que tu fais. Mais c'est vrai que il n'y a plus de terrain incognita, de véritable tache blanche. L'exploration, elle n'existe plus vraiment aujourd'hui, à part sous-marine et puis dans l'espace. Donc nos satellites balisent l'espace. Il y a des taches grises comme l'Afghanistan, des zones qui sont des zones un peu tampons, qui sont encore un peu mal connues, mais en tout cas cartographiées. Donc des voyageurs, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup sur la route. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de voyager, qui ont énormément envie de... d'être dans un style de vie qui ne soit pas sédentaire. Donc c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes maintenant sur les routes qui voyagent ou qui n'ont pas forcément de projet en tant que voyageurs même, mais en tout cas de prendre 6 mois de leur vie au sein d'une entreprise parce qu'ils savent que c'est important pour leur cheminement personnel. Donc on croise beaucoup de gens qui sont en tout cas en chemin. pas forcément pour partager ça à travers des ouvrages ou de faire des voyages qui sont un travail, mais qui sont plus oui, dans un cheminement personnel. Moi, je croise beaucoup de gens maintenant sur les routes qui prennent du temps vraiment pour eux, qui veulent arrêter un petit peu cette folie du temps qui passe et qui disent, voilà, moi, je vais prendre 6 mois de ma vie. J'ai un boulot passionnant en France, dans une boîte incroyable. Je suis salariée, mais voilà, je sais que j'ai besoin aujourd'hui de partir pendant 6 mois pour aller apprendre cette langue ou méditer ou travailler voilà, telle ou telle pratique à l'autre bout de la planète. Donc ça, c'est passionnant parce qu'on en croise, maintenant partout, quoi. Le monde offert est un cadeau, hein, donc... C'est vrai que maintenant, voyager, c'est très facile, c'est très simple. Donc, pour tout le monde, quand les gens disent « Ah, mais c'est incroyable de faire ce que vous faites », je dis « Mais ça tient qu'à vous ». Je dis « On ne va pas sur la lune à cloche-pied, quoi ». Donc c'est assez simple de voyager. Après, ça dépend ce qu'on veut faire, comment, pourquoi. Et après, de son regard découle la manière qu'on a de transmettre, hein, ce voyage-là.
On s'est pas présenté encore, comment tu t'appelles?
C'est vrai qu'on a commencé au quart de tour. Moi, mon petit nom, c'est Priscilla. Voilà, c'est né d'un coup de pied que j'ai donné dans le ventre de ma mère quand elle était en Italie et elle a entendu le nom Priscilla. Et donc voilà, je m'appelle Priscilla.
Née en France?
Je suis née à Paris en 75, à Paris, voilà, dans le 15e arrondissement, dans une petite clinique parisienne.
Et tu as quitté la France pour la première fois à quel âge? Seule.
J'ai quitté la France seule à 11 ans pour le Canada. Je suis allée construire des cabanes au fond des forêts du Québec.
Alors tu me disais dans cette émission que tu voyages souvent seule. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les femmes qui ont peur de voyager seule?
Mais les peurs, c'est vraiment le mental qui parle. Combien on se crée des formes pensées sur des choses très archaïques qu'on porte en nous par rapport à une éducation, par rapport à une société, c'est vrai qu'on génère beaucoup de peur, de l'agression, du sentiment d'être voilà, plus faible si une mauvaise rencontre se fait sur la route. Moi, dans tous mes voyages, c'est vrai que j'ai beaucoup les projections des autres quand je pars pour longtemps et que je suis seule. On me dit « Ah, mais mon Dieu, c'est pas possible de partir seule, une jeune femme comme toi ». Et finalement, c'est la projection des autres qui finit par te faire douter de ta confiance que tu peux avoir. Et il faut être solide pour supporter voilà, cette peur que les autres te projettent en disant « Mais peut-être que tu vas te faire agresser, violer ». Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de peurs comme ça qui sont projetées. Quand on donne l'idée que de voyager seul, c'est tout de suite dangereux, c'est plus difficile parce que forcément, quand on est deux, inconsciemment, on sait que l'autre sera là. Et donc, on a une espèce de plus grande facilité, je dirais, de partir dans des endroits un peu éloignés, loin des sentiers battus. Et donc, on se dit que l'autre, on pourra s'appuyer un peu sur lui si on fait des mauvaises rencontres ou qu'on tombe au fin fond d'un ravin. Voilà, donc ça, c'est sûr que de partir seul, il faut juste avoir cette profonde confiance au monde. Moi, j'ai appris à me défendre avec une art martiaux du Penchak Silat, mais c'est surtout le mental, quoi. C'est de dégager une confiance en les autres, de pas trop commencer à avoir des pensées négatives, parce que combien nos pensées créent le monde. Et dès qu'on commence à être très noir, enfin moi je l'ai tellement expérimenté en voyage que maintenant ça devient presque une méditation pour moi et une obligation dans mes voyages que de de faire attention à mes pensées, à dans quel état je suis énergétique, parce que tu t'aperçois que dès que tu commences à être très noir ou morose ou agressif, ou dès que tu commences à avoir des bâtons sur la route pendant le voyage, comme on peut avoir tout le temps, dû à l'administration, dû à beaucoup de choses, on peut vite avoir de la colère, des sentiments comme ça qui sont humains, mais qu'on doit combattre un tout petit peu chaque jour, parce que sinon on est vite dans quelque chose de très agressif dans nos sociétés. Donc c'est d'arriver à être capable de changer son regard sur les choses. Chaque chose a vraiment plusieurs prismes et plusieurs côtés, donc on peut regarder toujours le côté noir ou voir le côté positif en disant bon, c'est pas très grave. Et c'est vrai que ça change beaucoup la donne, quoi, parce que de se retrouver dans des campements de camionneurs, toute seule, avec personne autour, à des milliers de kilomètres, on peut commencer tout de suite à dire « Oh là là, mon Dieu, je vais pas dormir de la nuit, ils vont tous me sauter dessus », ou se dire « C'est génial, c'est super », et puis ça change tout de suite d'un point de vue énergétique ce qu'on donne aux autres inconsciemment, ce qu'on va rayonner par rapport à nos pensées vont faire qu'une situation va basculer ou pas. Et donc en tant que femme, moi je pense fondamentalement que c'est vraiment une façon de penser aussi, de se comporter, d'avoir des bonnes attitudes, de ne pas prendre des risques inutiles, mais surtout d'avoir la juste attitude. Hein. Et à partir de là, enfin voilà, c'est facile, je veux dire, il n'y a pas de problème. Alors après, même si on a une bonne attitude, parfois on fait quand même des mauvaises rencontres, parce qu'on a en face de soi, il y a toujours des personnes qui ne sont pas bienveillantes. Hein. Il n'y a pas que des gens sympas dès qu'on quitte ses frontières. Donc faut savoir se défendre. Et puis si le chemin s'arrête là, il s'arrête là. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec cette idée-là. C'est pour ça que je considère que chaque jour est sans doute le dernier jour et que j'en profite pleinement et que je fais les choses que j'aime et que je dis aux gens que je les aime. Et que si demain ma route s'arrête, ben j'aurai pas de regrets, quoi. Donc quand on part avec cette liberté au cœur de se dire c'est super, j'ai la chance de pouvoir faire ce voyage-là, mais si je fais une mauvaise chute et que je me retrouve au fond d'un fossé et que je peux pas m'en sortir toute seule, je peux n'en vouloir qu'à moi. Personne n'est responsable. C'est moi et moi seule qui suis responsable. Donc à partir du moment où on accepte que on peut mourir à un moment du voyage. Ça vous donne une grande liberté, puis on s'aperçoit que du coup, ça permet d'aller beaucoup plus loin, que tous les remparts qu'on peut se faire, physiques, mentaux, tombent de même, quoi, et que la route est libre.
J'aime t'entendre dire que la pensée est créatrice, et puis que c'est toi, finalement, qui génère les bonnes ou les mauvaises actions qui t'arrivent dans ton quotidien.
Ah bah oui, oui, enfin moi, je l'ai tellement vécu en voyage, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir le conscientiser, de pouvoir avoir des personnes qui sont beaucoup plus sages, qui te transmettent leur savoir, leur connaissance, de commencer à lire des textes sacrés ou de... c'est vrai, quand on a 20 ans, j'étais encore loin de toute cette réflexion, mais l'expérience, les rencontres font qu'on finit par vivre véritablement dans sa chair et intellectuellement cette expérience-là, et de voir que finalement l'invisible est beaucoup plus... notre monde que l'impermanence du visible. Et donc c'est des expériences qui font que petit à petit on a ça en soi et qu'on l'expérimente chaque jour dans nos rencontres, dans ce qu'on projette, dans ce qu'on fait. Donc après c'est presque drôle, on en fait l'expérience, quoi. C'est presque magique, c'est-à-dire que quand on est loin de du brouillon qui brouille en tout cas nos sens, notre énergie, dans les grandes villes où il y a énormément d'électronique, où on est brouillé dans tous nos instincts très très forts qu'on peut avoir en voyage quand on est loin de tout ça. Quand on fait cette expérience-là, c'est presque magique, quoi. C'est-à-dire, après c'est différent parce que quand on projette des choses très noires, en disant je vais projeter des choses noires pour voir si ça arrive, souvent ça arrive pas parce que c'est quand même plus compliqué que ça, mais c'est toujours intéressant de faire l'expérience, de voir ça. On l'a vraiment vécu avec Sylvain, avec nos chevaux, en fait. C'est à dire que les chevaux nous ont appris cette capacité à vraiment se contenir, positiver beaucoup et transformer une énergie négative en quelque chose de très positif, parce que les chevaux sont des vrais buvards de nos émotions. Et en quelques minutes, en un regard le matin quand vous vous levez et qu'ils croisent votre regard, ils savent dans quelle émotion, dans quel état d'esprit vous êtes. Vous êtes de mauvaise humeur, vous avez mal dormi, vous êtes plein de courbatures. Ils vont être agressifs, nerveux et du coup la marche va être vraiment compliquée parce qu'ils ils voudront pas marcher, ils voudront pas avancer, ils vont s'arrêter toutes les deux minutes. Et dès que vous commencez à être, vous obligez à être bien, à prendre le temps d'être avec eux, à leur parler, à être, ça transforme complètement la relation et la relation au monde. Ces chevaux, au début de notre voyage en Asie centrale, avaient cette capacité de voir une demi-heure avant qu'on puisse voir un petit point à l'horizon, un cavalier qui se présentait au loin, et ils tournaient déjà la tête dans la direction. Et quand le cavalier apparaissait, on était à chaque fois secoué de se dire c'est incroyable, c'est la perception qu'ont les animaux, combien nous on est vraiment pollués quoi. On voit rien, on n'entend rien, on sent rien. Et puis à la fin du voyage, quand on est capable de tourner la tête en même temps que les chevaux, c'est super parce qu'on se dit que tout ça c'est une question d'apprentissage, d'exercice quoi. Tout est une question d'exercice en fait, et de pratique. Donc après cette expérience là, c'est vrai que ça m'a beaucoup captivée et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup. J'ai fait des belles rencontres avec des maîtres, des personnes sacrées qui m'ont donné des clés de compréhension aussi de notre monde. Et puis de l'invisible qui est vraiment dans notre vie quotidienne et dont on ne prend pas assez part hein, souvent et qui est pourtant si important.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'était Brisilla Telmont. Retrouvez ses émissions sur le site de Regarde ailleurs. Regarde ailleurs www.regardeailleurs.org.